allez entendre le quatrième exposé d'une année de philosophie consacrée à l'ordre des choses. Cet exposé s'intitule « Anarchie et justice, désordre dans la vallée de Josaphat ». L'enregistrement est divisé en 5 épisodes d'environ 3 quarts d'heure. Entre chaque épisode, n'hésitez pas à aller lire les extraits des textes dont il est question. Ils sont accessibles sur le site écoledephilosophie.org, dans la rubrique « Cours ». Épisode 5, Giorgio Agamben, l'action, la faute et le geste, partie 2.
Alors le deuxième point, c'est sur le problème de l'imputation, donc c'est très lié. Moi j'ai essayé de démêler plusieurs choses qui sont dans Agamben, mais qui sont en fait, c'est un peu une pelote de laine, quoi. C'est l'idée de mettre à jour le processus historique par lequel on est venu à penser non plus seulement qu'un acte est un mal et mauvais, mais que le sujet est en faute. Et donc le passage de la reconnaissance d'un délit objectif, ou d'un mal objectif, à une responsabilité subjective. Alors pour montrer ce passage-là, on peut le constater assez facilement quand on se dit dans la loi biblique que reçoit Moïse dans la Bible, là, il y a la violation d'un commandement entraîne factuellement une peine. Donc si tu tues ta mère, alors il t'arrivera ça, ça et ça. Pareil avec la loi du talion. Si un homme commet telle action, il subira la même action. Et donc il y a un lien objectif entre un comportement désapprouvé et ses conséquences, qui sont une punition. Alors que dans la pratique juridique moderne, à l'inverse, il y a une subjectivation de la faute. Et ça, ce qui permet de le voir, c'est que le droit, il voit l'essence du crime dans un processus déterminé de l'esprit du criminel, qui est son intention. Et on voit que cette intention, elle sera jamais punie si elle s'est pas objectivée extérieurement. C'est pas parce que je pense à tuer quelqu'un que je vais être puni pour ça. Par contre, ce qui s'est extériorisé sera jugé non pas du fait de son objectivation, mais pour le mouvement spirituel dont il est l'émanation. Ça, c'est une remarque de Carl Schmitt qui a écrit un livre qui s'appelle « Sur la faute », ses premiers traités. Et du coup, si on punit un acte, c'est du fait de la responsabilité subjective de son auteur, d'un mouvement spirituel intérieur. C'est ce mouvement spirituel intérieur que l'on condamne. Pourtant, on le condamne que s'il s'est réalisé objectivement. Et donc on peut dire que ce lien d'abord objectif entre un comportement et ses conséquences a été subjectivé, et ceci par l'idée, par l'invention de l'idée de culpabilité subjective. Voilà. Et ça permet de déplacer la faute de l'action à l'agent. Que le mal, il n'est plus dans l'acte en lui-même, mais dans celui qui en a été porté responsable, quoi. C'est celui à qui on en attribue la responsabilité. Voilà, donc là je suis dans la deuxième partie qui correspond au problème de l'imputation et que j'ai résumé par la phrase « l'agent est cause de ses actes ». Premièrement, je montre qu'on n'a pas toujours considéré qu'il y avait un sujet en faute. On pouvait considérer qu'il y avait des actions qui étaient mauvaises et leur attribuer des peines sans forcément subjectiver la faute et de dire que ça se passe à l'intérieur, qu'il y a une faute morale, quoi, une culpabilité subjective. Et donc comment on fait pour déconstruire cette idée, ça repose sur l'idée que l'agent est cause de ses actes, et comment on fait pour déconstruire cette idée là et ça à nouveau avec le déplacement que j'ai déjà opéré, considérer la faute comme une erreur, comme une folie issue d'un aveuglement plutôt que comme une intention mauvaise, ça permet de déconstruire cette idée. Parce que si la faute est donc une erreur, alors l'individu qui la commet, ou plus exactement qui en est la victime, se trouve pris lui-même dans la force sinistre qu'il a déclenchée. Voilà, c'est vraiment le schéma de la tragédie grecque, ou plutôt il se trouve pris dans une force qui s'exerce à travers lui. Donc il y a une forme comme ça de déresponsabilisation. Et quand même l'idée que je trouve un peu belle, c'est qu'au lieu d'émaner de l'agent comme de sa source, l'action l'enveloppe et l'entraîne lui-même, et l'englobe dans une puissance qui lui échappe D'autant plus qu'elle s'étend bien au-delà de sa personne. Enfin, il y a tout un truc de transmission intergénérationnelle de cette folie dans les tragédies grecques. Et donc, en ce sens, il est plus correct de dire que l'agent est pris et inclus dans l'action plutôt que de dire qu'il en est l'auteur ou de dire qu'il en est la cause. Bon, alors ça, évidemment, ça s'inscrit dans toute une conception du monde qui est propre à la Grèce antique, enfin, l'idée d'un cosmos où les actes d'un acteur dépendent moins de ses intentions ou de ses projets que de l'ordre général du monde auquel autre chose que lui préside. Mais bon, évidemment, on peut quand même faire des parallèles avec, je sais pas, les déterminations sociologiques, enfin, tout ce truc-là. Mais il y a quand même aussi l'idée que vraiment, très concrètement, le héros tragique n'a pas la maîtrise de ses actes. Par exemple, pour Oedipe, c'est vraiment l'oracle qui préside à son destin. Mais surtout, c'est seulement au terme du drame que tout s'éclaircit pour lui. En fait, c'est à la fin de la tragédie qu'il comprend le sens réel de ce qui s'est trouvé accompli sans qu'il le veuille ni le sache. Et donc, en ce sens, l'agent n'est pas cause et raison suffisante de ses actes, c'est au contraire son action qui, en revenant sur lui, le découvre à ses propres yeux et lui révèle la vraie nature de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Comme si on ne pouvait jamais savoir vraiment qui on était avant de faire ce qu'on fait. Et qu'il y a quelque chose. Enfin, voilà, l'action nous révèle à nous-mêmes. Ça, c'est une idée que je trouve pas totalement datée, quoi. Alors que celle de dire qu'on est pris dans l'action et que c'est pas vraiment. Enfin, bref, peu importe mon avis, peut-être. Et du coup, voilà, y a l'idée qui m'intéresse ici et que met en lumière la tragédie grecque, c'est l'idée que celui qui agit est transformé par l'action. Et que donc, on dit que agir. Quand on dit que agir affecte comme ça, enfin transforme la personne qui agit, on dit que agent et patient, sujet et objet de l'action se confondent. Et voilà, Agamben lui, il dit que c'est vraiment la théologie chrétienne qui a séparé le sujet de l'objet de ses actions pour faire un sujet qui est plus constitué par ses actions, le sujet qui découle de ses actes, mais au contraire un sujet qui est en amont des actions et qui est susceptible de toutes les actions. Le sujet est préalable à ses actes, après il lui suffit de vouloir ou de ne pas vouloir pour les faire. Vous voyez ces deux conceptions du sujet où il y en a un qui découle des actes et il y en a un qui est présupposé. Et voilà, donc la tragédie. La tragédie exprime cette faiblesse de l'agent, ce dénuement intérieur qui ne lui permet pas de savoir exactement les conséquences de son acte. Et donc pour Agamben, par contraste, ça permet de voir une sorte de toute puissance illusoire, mais aussi un peu mégalomaniaque de l'homme moderne qui se sent totalement responsable de ses actes, comme si on était en mesure, enfin comme si on avait un pouvoir sur les choses, comme ça, qui en fait, par contraste avec cette espèce d'humilité grecque de dire, enfin, il y a des choses qui président à mes actions et que je connais pas, ou sur lesquelles j'ai pas la maîtrise. On voit qu'il y a une forme de mégalomanie comme ça, de se sentir un pouvoir sur des choses. On peut avoir un savoir, on peut connaître ce qui nous détermine, mais par contre, agir dessus, ça semble totalement illusoire. Alors voilà, ça c'était pour le deuxième pilier, le problème de l'imputation. J'avoue que c'est vraiment celui qui me convainc le moins. Enfin, je pense que ça doit se sentir, mais j'ai pas vraiment réussi à aller jusqu'au bout de ce truc-là. Après, le troisième, donc, c'est celui de la sanction, qui dit « pas de jugement sans peine ». Et je vais être assez bref, hein, je vais être très bref sur ce dernier point, parce que c'est un énorme chapitre de la pensée d'Agamben. Enfin, il adore jouer sur les mots « sanction »,« sacré », c'est un énorme truc. Donc, je vais juste me concentrer sur un aspect spécifique, qui découle du fait que ce qu'on appelle « sanction », c'est le plus souvent une punition. La sanction, c'est l'idée que ça, on ne laisse pas passer, quoi, il faut marquer le coup. Et en ce sens, la sanction, elle fait exister la loi. Et en faisant exister la loi, elle se pose elle-même comme ce qui doit être. Là, j'ai enchaîné direct sur la sanction, ça va ou...
Par quoi le pansement sanction, punition
Bon, je disais juste que la sanction, c'est le plus souvent une punition. Enfin, c'est l'idée qu'il faut marquer le coup. Enfin, c'est, on sanctionne à la fois une action et on sanctionne toujours la loi en même temps. Enfin, c'est-à-dire qu'on dit ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Et la sanction, elle se pose elle-même comme ce qui doit être. Si elle n'était pas là, on ne pourrait plus discriminer entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Et ce que dit Agamben, c'est étant donné qu'elle prend le plus souvent la forme d'un acte coercitif, la sanction pose implicitement que ce qui doit être, c'est une violence licite et légitime. Et du coup, par la punition, le droit justifie la violence. Et pour Agamben, la punition en justifiant la violence fait violence à la justice. Enfin, il y a une sorte de retournement comme ça. En justifiant la violence, le droit et la punition font violence à la justice, qui cherche justement l'abolition de cette violence. Enfin, d'une violence injuste. Enfin, comme s'il y avait une violence juste et une violence injuste. Vous avez compris l'idée ou pas ? C'est le paradoxe de la sanction, c'est que le même acte, c'est-à-dire la violence, par exemple dans la loi du talion, il y a le premier geste, il est insupportable, il faut le punir, et on va le punir avec exactement le même geste qui serait insupportable, mais tout d'un coup, il est devenu licite et même nécessaire, quoi. Et du coup, ça, c'est une contradiction qui est trop flagrante aux yeux d'Agamben. Donc voilà, je vais juste dire ça sur le problème de la sanction. Il en dit beaucoup plus, hein. Et je vais finir cette partie-là sur donc le problème de la finalité que j'ai énoncé. Qui veut, comme tel, là, qui veut la fin doit vouloir les moyens. Et on en vient un petit peu au cœur de l'idée d'Agamben. En fait, lui, on voit bien le problème qu'il y a dans la phrase « qui veut la fin doit vouloir les moyens ». Et le problème que lui, il y voit, c'est que le bien est toujours dans dans la morale occidentale, ou l'éthique, je confonds totalement ces termes, je me dis que... Je voulais dire ça en introduction, j'ai oublié, mais peut-être que morale, c'est, je ne sais pas si ça tient comme distinction, mais peut-être que morale, c'est l'éthique telle qu'elle a été contaminée par le droit, et l'éthique, ce serait ce qui est sauf. Mais je ne suis pas du tout sûre que ça tienne dans la pensée d'Agamben, mais on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que je disais que ah oui, là, dans la morale occidentale pose le bien comme quelque chose en vue de quoi on fait tout le reste. Ça, c'est une formule d'Aristote. Le bien, c'est une finalité qu'on vise. Et évidemment, ce sera quelque chose de différent selon les domaines. En médecine, on va viser le bien, ce sera la santé. Dans la stratégie, ce sera la victoire. Et après Aristote, c'est Aristote qui fait cette remarque, et après il ajoute, et dans la sphère de la praxis et du choix, ce bien c'est la fin, puisque c'est en vue de cette fin que tous les hommes font tout le reste. Et donc là c'est la fin au sens de finalité, la fin par distinction d'avec les moyens. C'est en vue de cette fin que les hommes font tout le reste. Et donc Aristote inscrit toute la doctrine du bien, toute l'idée de la morale dans une théorie de la finalité. Et donc, le bien est posé comme une fin dernière, c'est-à-dire une fin par rapport à laquelle toute chose se configure comme un moyen. Aristote, là, en faisant ça, invente un dispositif qui fonde, en même temps qu'il constitue comme absolu, l'opposition entre la fin et les moyens. Si le bien est la fin suprême, tout le reste n'est que moyen vu de cette finalité. Et qui veut la fin doit vouloir les moyens. Enfin, du coup, il n'y a pas de bien possible. Le bien, il est toujours... En fait, ce que critique Agamben, c'est justement que ça produit une scission. On ne pourra jamais atteindre le bien. C'est toujours ce en vue de quoi on fait quelque chose. Donc, c'est jamais accessible. Et qu'il y a il y a toujours une scission entre le sujet et les fins qu'il se donne. Donc voilà, entre l'homme et son bien, il n'y a pas de coïncidence, mais il y a une fracture. Et cette fracture, c'est l'action qui, tout le temps, tente de la combler. C'est en agissant on agit toujours en vue de quelque chose. C'est en agissant qu'on va pouvoir tenter de sans cesse de combler cette latence qui se rouvre tout le temps. Et c'est pour ça, pour Agamben, que le lieu de, de, L'éthique dans la culture occidentale, c'est pas l'être, mais c'est l'agir. Il suffit pas d'être, il faut entrer en action tout le temps. Il faut agir pour pouvoir atteindre ce bien, parce que ce bien ne nous est, enfin, il est toujours un peu trop loin. Voilà, donc ça institue un primat qui est accordé à l'action. Et ça, cette idée de fin dernière, comme ça, introduit une scission à l'intérieur de l'agent qui le constitue comme en dette envers sa fin propre. Et là, on peut penser au mot allemand, schuldig, qui veut dire à la fois en dette et fautif. Enfin, il y a quelque chose de... On n'est jamais dans le bien. Mais par contre, il faut qu'on l'atteigne. On est en dette. Et c'est parce qu'on est en dette qu'on est fautif. Enfin, on est en dette envers la fin qu'on doit faire advenir dans le monde. Alors, ce point, il m'intéresse particulièrement parce que j'ai l'impression que c'est en démantelant celui-là particulièrement qu'on peut imaginer ce que serait une justice anarchiste, c'est-à-dire une justice sans principe transcendant qui la régule, une justice sans fin dernière, sans une fin qui serait un bien qui serait au-delà des moyens qu'on se donne. Et du coup, ça serait quoi une justice sans fin dernière ? C'est quelque chose qui serait au plus près du tact ou de ce qui convient, du geste opportun. Il parle beaucoup de gestes, Alain Ben. Et qui est accordé au sens qui sourd d'une situation.
Qui quoi ?
Qui sourd, enfin qui se dégage d'une situation. Et qu'il ne s'agit pas, il ne s'agit jamais de servir des fins, fussent-elles élevées pour juger cette situation. Donc voilà ce que Agamben suggère quand il critique le fait que la morale est fondée sur l'action. Il dit pas qu'il faut pas agir, mais en tout cas il dit qu'il faut pas agir en vue d'autre chose que l'action elle-même. Et moi je l'ai reformulé dans ma tête en disant que ce qu'il fallait rechercher c'était pas le bien mais la bonté, enfin qu'il y a aucun bien qui est transcendant, tout le bien est dans la bonté, dans le fait d'être bon et non pas dans la finalité visée, si pure et belle soit-elle, que ce soit le salut de l'humanité ou le fait de d'empêcher que les crimes nazis se reproduisent, ou enfin quelle que soit la finalité qu'on se donne, ce qui compte c'est le geste, enfin comment on le fait, voilà. Alors, j'ai pas tout à fait fini parce que je voulais faire un dernier truc. C'est essayer d'un peu concrétiser la pensée d'Agamben. Enfin, comme je disais au début, y a des choses que je trouve vraiment convaincantes, d'autres un peu moins, mais surtout, je trouve que c'est très abstrait et que vraiment le mérite d'Arendt, c'est qu'elle donne vraiment des trucs très, très concrets, quoi. Et du coup, ça devient aussi une forme de... Enfin, elle donne un peu des lignes éthiques comme ça qu'il est concret de suivre, quoi. Ce qui n'est pas vraiment le cas d'Agamben. Donc voilà, c'est ce que je dis. Il y a une mise en cause radicale des fondements même de toute la morale occidentale qui paraît, je ne sais pas si ça vous paraît pertinent ou convaincant, en tout cas moi ça l'a été quand même un peu, mais je ne peux pas m'empêcher de constater que la pensée, ou peut-être la morale, rebute à imaginer des applications concrètes qui sembleraient au mieux à côté de la plaque, au pire scandaleuses, voire dangereuses. En tout cas, moi, je me suis dit que Agamben ne pensait plus du tout à Auschwitz quand il écrit Karman. Enfin, il pense une éthique pour les gens comme vous et moi, où on ne se dit pas que peut-être on pourrait faire les pires crimes contre l'humanité. Voilà, même si évidemment c'est en lien, parce qu'il pense et il dit que c'est cette morale occidentale voilà, qu'il dénonce, qui a sinon produit, du moins permis Auschwitz. Donc ce que je voudrais faire, c'est suggérer qu'il est malgré tout possible d'imaginer une concrétisation de la pensée d'Agamben. Alors je voulais prendre un premier exemple qui est issu de la psychanalyse pour montrer que c'est possible de juger sans condamnation ni accusation. C'est dans un texte de Nathalie Salzman où elle raconte la clinique avec un analysant qui a une sexualité pédophile. Et j'ai trouvé ça vraiment assez beau, comment à aucun moment elle condamne cet analysant dit « Moi, je viens ici, je veux pas renoncer à ça. Enfin, c'est constitutif du sujet que je suis. » Et du coup, il y a tout un, voilà, il y a toute une démarche psychanalytique qui ne passe pas par la condamnation ni l'accusation, mais qui, par la parole, va dénouer des nœuds de désir, j'imagine, et qui, au final, fait que ce désir pédophile se dénoue comme par lui-même.
Donc, cet exemple-là, mm-hmm. Tu as dit qu'il a des pratiques pédophiles, mais il a des désirs pédophiles.
Ouais, les deux. Ouais, les deux. Donc voilà, le truc un peu spécifique, c'est quand même le patient reconnaît qu'il a un problème avec ça. Enfin, il dit qu'il ne veut pas y renoncer, mais il reconnaît lui-même qu'il y a un problème et qu'il veut travailler là-dessus. Donc voilà, bon, c'est peut-être ça pourra donner des pistes pour la discussion et tout. Je vais pas, enfin, je voulais raconter un peu le truc et tout, mais je pense que c'est trop... Ça va prendre trop de temps. Et surtout parce que la chose que je voulais faire, c'était de faire une forme de pas de côté qui est en fait un grand écart en regardant du côté des pratiques de la justice transformatrice. Parce que, en fait, si je suis sincère avec moi-même, si ce livre de Agamben il m'a plu, c'est parce que j'y ai reconnu des échos vraiment assez étonnants avec ce que je découvrais à peu près en même temps de la justice transformatrice. Des échos qui sont parfois consonants, qui sont parfois très dissonants aussi. Hein, c'est pas non plus, c'est vraiment pas la même chose. Alors, la justice transformatrice, c'est une pratique développée par des féministes qui plutôt... du continent américain, qui appartiennent à des communautés marginalisées, autochtones, noires, queer, et qui ont cherché à trouver, qui ont trouvé des moyens de répondre aux conflits et aux violences, notamment aux violences de genre, sans recourir au système de justice pénale. Et donc c'est une façon de rendre justice en dehors du système judiciaire, voilà. Vraiment, le principe important, c'est que c'est centré sur les besoins des victimes avec l'idée de responsabiliser les auteurs de violences ainsi que la communauté qui les entoure. Mia Mingus, l'une de ses figures, résume ça comme ça. Elle dit que c'est une manière de répondre à la violence et au préjudice en ne causant pas plus de violence et de préjudice. Voilà. Et donc, bon, voilà, ça pose évidemment problème de faire ça, parce qu'il y a d'un côté le ponte philosophique des gauchistes qui est un vieux man blanc anarchiste, je sais même pas si anarchiste, et de l'autre des tentatives concrètes issues des mouvements antiracistes américains, donc d'un côté la théorie pure en grec et en latin, et de l'autre une expérimentation pratique, pragmatique, et pas du tout des mêmes milieux et tout. Voilà, bon, ce qui m'a quand même interpellée, c'est que les deux, en un certain sens, convergent, et dans un sens vraiment limité, et Agamben, il est vraiment pas du tout féministe, et tout, voilà. Et que... Et là, comment ça se... Enfin, là où ça me gêne, c'est que j'ai pas du tout envie de chercher à légitimer la pensée féministe noire américaine par celle de Giorgio Agamben, mais que c'est à l'inverse, plutôt d'indiquer pourquoi la pensée d'Agamben, elle m'a parlé, parce qu'elle a produit ces échos avec ces pratiques-là, qui viennent par ailleurs remettre concrètement en question certains points de la pensée d'Agamben. Et là, je m'en sers quand même pour montrer qu'il n'est pas si fou de chercher à concrétiser la pensée d'Agamben, quand on le voit sous un certain jour. Et voilà, donc je ne vais vraiment pas présenter la justice transformatrice, c'est juste quelques points qui font écho, et ce n'est pas du tout exhaustif sur ce que c'est que la justice transformatrice. Donc déjà, la première chose que je vois, c'est une idée de séparer la justice du droit pour faire reculer le droit. Donc comme je disais, c'est la justice transformatrice cherche à sortir du système judiciaire, notamment du système pénal. Et voilà, donc, et en plus de ça, la justice transformatrice vise l'abolition des prisons et questionne... c'est un peu plus... en fait, dans Auschwitz, Agamben, il dit que parfois, il faut reconnaître une faute et une responsabilité, et pénétrer dans la sphère du droit. Enfin, j'ai trouvé ce passage où il dit, c'est pas non plus totalement possible de se passer du droit. Enfin, il y a quand même, et ça m'a fait aussi un écho avec certains questionnements chez des penseuses de la justice transformatrice qui se demandent si, parfois, il y a besoin du droit pour même ne serait-ce que comme menace. Alors que le geste même, comme Agamben, c'est de faire reculer l'extension du droit et du droit pénal et des prisons, et aussi de se dire que c'est vraiment pas du tout par la punition ni même par la criminalisation criminalisation qu'il est même pertinent et efficace de répondre aux violences de genre. Par exemple, enfin, Mariam Kaba, une autre figure de la une porte-parole de la justice transformatrice, elle dit « Nous ne mettrons pas fin au viol par la criminalisation. La criminalisation reproduit et maintient la violence sexiste. » Et donc, il y a aussi cette critique de la sanction comme légitimation de la violence. Enfin, parce que la justice transformatrice, elle met vraiment la lumière sur le fait que les réponses punitives de l'État et du système pénal reproduisent la violence. Et que, enfin voilà, ça s'oppose vraiment complètement à l'idée qu'on peut résorber un mal par un autre mal. J'ai une autre phrase de Mia Mingus qui dit « La justice transformatrice cherche à répondre à la violence sans créer davantage de violence. » Et voilà, et un peu dans le geste que j'ai essayé de faire, mais bon, sur un point totalement différent, ces activistes-là, elles cherchent aussi à... Enfin, elles montrent aussi qu'il faut déconstruire en nous-mêmes les normes de l'État et ses tactiques, la honte, la punition, l'isolement, parce qu'on les a intériorisées. Enfin, alors ça, c'était le premier écho comme ça que je vois, cette distinction entre la justice et le droit. Une autre, c'est l'idée qu'il faut se concentrer sur l'acte plutôt que sur l'agent. Enfin voilà, dans la justice transformatrice, il y a l'idée que c'est un viol qu'on condamne plutôt qu'une personne qu'on subsumerait sous l'étiquette violeur. Voilà, avec l'idée qu'une personne ne se résume pas à un acte, mais cet acte est un indice de ce qui l'a rendu possible. Et l'auteur n'est pas pour autant laissé à lui-même. Enfin, c'est pas. Voilà, ça met quand même une sorte de nuance par rapport à Agamben. Il est accompagné au sein d'un processus de responsabilisation. Et là, on touche à un point de divergence majeur concernant la question de la responsabilité. En fait, contre Agamben, la justice transformatrice suggère qu'on peut penser une responsabilité extra-juridique. Ça, c'est... Enfin, vraiment, j'ai quand même été assez étonnée de... Enfin, donc Agamben, il s'attaque comme ça au droit de façon hyper franche. Il a des arguments vraiment assez convaincants sur les quatre piliers dont j'ai parlé. Sur la notion de responsabilité, en soi, là, ce mot-là, il dit juste c'est mal, c'est pas bien. Mais il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de matière. Enfin, j'ai pas... En tout cas, moi, j'ai vraiment pas été... Enfin, convaincu de la même façon, quoi. Et voilà, si responsabilité signifie pouvoir répondre de ses actes, alors pour la justice transformatrice, évidemment, un auteur de violence doit pouvoir répondre de ses actes. Et après, je trouve ça aussi intéressant de voir que dans le cadre de la justice transformatrice, on parle de processus de responsabilisation, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de responsabilité, on considère qu'il faut la construire, on ne peut pas l'exiger. Enfin, comme ça. Le point d'après, c'est le mal, on le peut plutôt qu'on le veut. Et pour ça, l'idée qui fait écho avec cette idée d'Agamben, l'idée que le mal, on le peut plutôt qu'on le veut, fait écho avec la justice transformatrice. Ça, on le voit par l'idée, du coup, que condamnait très fortement Arendt, d'une responsabilité collective. Qui met l'accent sur le fait que c'est un contexte et un entourage aussi qui permettent la violence, hein, qui rendent possible certaines violences. Et du coup, ça invite chacun, chacune à comprendre ce qui rend possible des viols et chercher les conditions de possibilité du mal. Et du coup, ça revient à se demander comment des agresseurs ont pu commettre des viols et des violences, plutôt que pourquoi ou comment ils l'auraient voulu. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Et par exemple, en mettant cet accent sur comment ils l'ont pu plutôt qu'ils l'ont voulu, il y a toute une importance qui est accordée à la transmission intergénérationnelle des violences, enfin, notamment dans les cas d'inceste. Donc voilà, on s'évite les hypothèses sur les intentions et la volonté personnelle de l'auteur, et on cherche plutôt à comprendre ce qui a rendu la violence possible. D'ailleurs, une autre idée le fait que les processus de responsabilisation là, que j'évoquais reposent en fait fortement sur l'implication des auteurs de violence, parce qu'il faut, enfin, ça semble indispensable que la personne engagée dans un tel processus reconnaisse le mal qui a été fait, et donc qu'elle y mette un peu de bonne intention. ça montre bien qu'on ne considère pas que l'auteur de violence a eu... en fait, que l'intention ne... ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'une personne engagée dans un processus de responsabilisation reconnaisse le mal qui a été fait, mais évidemment, sa bonne intention ne suffit pas. Enfin, c'est vraiment dans beaucoup de récits et tout, enfin, même d'expériences vécues, c'est ça qu'on voit. Et du coup, ça montre que l'idée d'intention, elle n'est pas considérée comme pertinente. Enfin, il suffit pas d'avoir une bonne intention. Enfin, je suis pas claire. Ça, j'essaie de dire deux choses en une, c'est que si l'auteur si un auteur de violence accepte de rentrer dans un processus comme ça, c'est que l'idée d'intention même est un peu faible. Enfin, genre, il aurait eu l'intention de violer, puis après il aurait l'intention de faire un processus comme ça. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Et en plus, l'autre remarque, la bonne intention ne suffit pas, comme une grosse leçon, ça. Et le dernier point, c'était sur, évidemment, la question de la punition, et que là, il y a une sorte de synchronie quand même assez forte, les deux s'opposent à la punition, parce que la punition reproduit et légitime la violence. Et je voulais ouvrir, du coup, à partir de ça, sur la question de la... du coup, c'est en vrac, mon truc, mais sur la question de la responsabilité, parce que ce qui... La comparaison, là, enfin, en tout cas, les échos que je cherche à mettre en lumière entre Agamben et la justice transformatrice, comme je le disais, le point vraiment divergent, c'est la question de la responsabilité. Chez Agamben, il y a quand même quelque chose d'un petit peu logique. On ne punit pas une personne parce qu'on ne peut pas vraiment considérer qu'elle est l'auteur de ses actes, ou qu'il y a une forme d'inimputabilité comme ça. Dans la justice transformatrice, c'est un petit peu différent, quoi. Il y a une différence qui est faite entre le fait de punir et le fait d'assumer les conséquences de ses actes. Et du coup, il y a l'idée qu'on pourrait assumer les conséquences de ses actes d'une façon qui ne serait pas juridique. Considérer qu'un sujet peut assumer des actes qui lui sont propres, ceci indépendamment de la menace légale qui pèse sur lui. Que par exemple, assumer, non pas devant des personnes qui nous veulent du mal, qui cherchent à nous punir ce qu'on a fait, mais l'assumer devant celles et ceux qu'on aime, là il y a quelque chose de l'ordre de l'assomption de ces actes, du fait de les assumer et donc de s'en porter responsable. J'ai l'impression que vraiment Agamben ne prend pas du tout en compte cette possibilité-là, je ne sais pas si on appellerait ça encore responsabilité, mais une façon d'assumer ces actes. Qui est quand même une façon d'en répondre, qui n'a rien à voir avec la sphère juridique, parce qu'on ne l'assume pas devant des gens qui cherchent à nous punir, mais devant des gens qui sont nos proches. J'ai fini. C'est la conclusion.
Ouais, peut-être pour ramasser tout ensemble, dire peut-être qu'on a vu Arendt, c'était un peu la morale sans loi. Fondée sur une critique active venue du soi et sur une responsabilité liée à des situations particulières, toujours particulières, et qui débouche sur une morale négative et qui assume son impuissance. Ça, c'est donc morale sans loi, et Colin, elle a plutôt fait Agamben, ce serait l'éthique sans droit, qui vise à défaire l'édifice de la volonté et de la responsabilité, et qui rétribue pas, qui défait aussi l'idée de rétribuer des actes malfaisants par une punition. Arendt, elle s'opposait pas à la peine de mort, par exemple. Qu'elle soit juridique ou non, elle disait. Et donc on a donc morale sans loi, éthique sans droit, et aussi il y avait une autre piste qui est celle de Deleuze, qu'on n'a pas le temps de traiter là et qu'on pourra approcher cet après-midi. Peut-être qu'on peut garder ces trois trucs en tête, on va voir comment elles se déplient. Et avec Deleuze, c'était de voir un droit sans loi. Voilà. Ça laisse un peu des choses en suspens. C'est des choses qui sont assez contradictoires, comme vous pouvez voir, qui sont difficiles à manipuler à certains égards, mais on espère que ça pose un peu des choses autour de cette notion de jugement. Nous, en tout cas, cette année, on essaie d'avancer avec ça, cette question du mal, quoi, un peu générale. Et on va continuer l'an prochain, si le destin nous l'accorde.
Si on le veut vraiment.
Non, mais ouais, voilà.
Je voudrais juste dire un dernier mot pour quand même, parce que là, du coup, après, j'ai tiré à gamben vers la justice transformatrice, mais j'ai sauté un passage où, quand même, enfin, pour avoir un peu le sentiment d'avoir, de même vous donner la compréhension un peu de ce livre-là, vraiment, quand même, ce que fait Agamben, c'est de dire qu'il ne faut pas juger. Donc, il juge le jugement. Enfin, d'ailleurs, tout un passage où il se moque, enfin, hein, une parabole juive, comme ça, où on accuse les accusateurs. Enfin, il voit lui-même qu'il y a une forme de contradiction là-dedans, qui est peut-être la contradiction de l'anarchie, celle que tu introduisais au début, là. Mais je voudrais quand même sauver, enfin, pour dire que c'est pas ça va pas à Agamben, c'est mieux la justice transformatrice, enfin, il y a quand même une idée, enfin, genre, si on prend de façon un peu radicale ce que dit Agamben, lui, ce qu'il dit, c'est que déjà il faut arrêter de se focaliser sur la question du mal, il vaut mieux regarder du côté, et non pas vraiment du bien, mais de la bonté, comme je le disais. Et lui, vraiment, son rêve, c'est de traverser l'existence en toute innocence. Donc ça peut sembler ou bien un rêve d'homme blanc, cis, occidental, ou bien celui d'un... Enfin, c'est aussi le rêve... Enfin, c'est vraiment quelque chose qui reprend de Benjamin, donc c'est aussi le rêve d'un juif persécuté. Je trouve que... Enfin, j'ai quand même envie de dire ça, parce que cet énoncé-là, traverser la vie en toute innocence, est quelque chose de vraiment très radical et de beau, qui ça pourrait être... Enfin, on pourrait entendre là-dedans que c'est se traiter les uns les unes les autres comme des enfants, et partir du principe qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, et du coup d'avoir cette empathie-là et tout qu'on a envers les enfants, et que évidemment ça pourrait être aussi... foutez-moi la paix avec ce viol dont vous m'accusez. Enfin voilà, donc il y a les deux à la fois, et qu'il y a quand même quelque chose de vraiment beau dans cette idée et de vraiment dangereux. Mais lui, il se porte à cet endroit-là, Agamben. Donc, je voulais finir quand même sur, pour pas juste dire ça tient pas.
Épisode 5 et fin de l'exposé Anarchie et justice, désordre dans la vallée de Josaphat. Vous pouvez retrouver la bibliographie, des extraits de textes ainsi que les autres exposés sur l'ordre des choses sur le site écoledephilosophie.org.